Bonjour à tous, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu vois, ce matin, nous voulons ensemble essayer de comprendre tes paroles, ce que toi tu as dit. Et tu es le mieux placé pour pouvoir nous en révéler le vrai sens, Seigneur. Alors je veux vraiment te prier que ce matin, par ton esprit, tu nous éclaires sur tes paroles, que les évangiles nous rapportent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des moments dans notre vie où il y a des événements, des choses qui nous marquent curieusement, des petits événements comme ça, et dont on se souvient régulièrement. Et j'aimerais vous raconter ce matin un souvenir qui m'est revenu régulièrement ces dernières années comme preuve que, curieusement, j'arrive pas à oublier cette scène. J'avais 10 ans et nous étions dans une réunion de famille. Alors, une réunion de famille avec oncle, tante, cousin. Et puis, comme dans toutes les réunions de famille, les cousins, on était placés ensemble. Et ma sœur, mon frère et moi, nous étions les plus jeunes des cousins. Et lors de ce repas, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais ce que je me souviens, c'est qu'à un moment, un de mes cousins, qui avait lui 15 ans, m'a mis une gifle et m'a dit « Tu sais, Jésus, il a dit que quand on donne une gifle, il faut que tu tendes l'autre joue. » Et moi, du haut de mes 10 ans, j'ai pas trop su quoi faire, ni quoi dire, ni quoi penser. Et j'ai dû bafouiller quelque chose, je sais pas. Je crois que je me suis dit qu'il me semblait pas que je devais tendre l'autre joue. En tout cas, je me sentais pas prête à le faire. Mais j'ai pas su quoi répondre, ça c'est sûr. Et il y a peu, j'ai réalisé que 30 ans après, j'avais pas résolu la question. Que si mon enfant vivait la même chose et venait me demander « Maman, j'aurais dû faire quoi ou j'aurais dû dire quoi ?» J'aurais pas su lui répondre. Est-ce que j'aurais dû dire « Mais c'est pas ce que Jésus a voulu dire, tu comprends pas, c'est autre chose. » Ou peut-être après, avec l'âge adulte, je me disais, j'aurais pu lui dire « Oui, mais tu sais, ma sanctification n'est pas encore achevée, alors c'est moi qui te remets une claque, blanc. » Ou est-ce que j'aurais dû tout simplement tendre l'autre joue en obéissance littérale à ce texte et prendre une autre gifle? Je ne sais pas s'il aurait aimé en remettre une deuxième d'ailleurs. Qu'est-ce que Jésus veut vraiment dire dans ce passage? Et c'est sur ce passage qu'aimerais qu'on se penche ce matin. Parce que récemment, une situation désagréable avec nos voisins m'a amené à me repencher à nouveau sur ce texte. C'est comme ça que j'ai réalisé en fait... J'ai repensé à cet événement et que j'ai réalisé que je ne savais toujours pas trop quoi en penser. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre. Et c'est cette réflexion que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu 5. L'évangile de Matthieu au chapitre 5. À partir du verset 38, Matthieu 5, verset 38, et nous lirons les versets 38 à 42. Donc c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. On a chanté tout à l'heure, on vient juste de chanter. J'ai relevé les paroles, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Alors on peut avoir l'impression que c'est on brandit quelque chose. Puis je pensais au texte que j'allais lire et je me disais, cette image, elle colle pas. Puis la première strophe disait, Tu nous as choisis pour porter du fruit et tu veux nous rendre semblables à toi. Et je me suis dit, c'est peut-être déjà plus juste, effectivement, cette image-là. Face à nos ennemis, être semblable à Christ. Alors, je pense que ce qui est important pour comprendre ce que Jésus a voulu dire, c'est de voir aussi le contexte immédiat. Ce passage, ça se trouve dans une section qui commence au verset 20. C'est à l'intérieur du fameux sermon sur la montagne, hein, qui commence par les béatitudes, heureux celui qui. Et puis, il y a toute une section où Jésus reprend l'enseignement des pharisiens concernant la loi et en donne son interprétation. Et ça commence au verset 20. Pierre-Yves, tu peux peut-être mettre la première diapo. Voilà, c'est le résumé de cette section. Vous voyez, ça ne tient pas. Hein. Du verset 20 au verset 48, c'est résumé comme ça. Cette section, elle commence par « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Puis, il y a toute une série de paragraphes qui commencent par « Vous avez appris que… » Mais moi, je vous dis que… » Et tout à la fin, il conclut « Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et c'est dans cette perspective, je crois qu'il faut replacer notre passage. Alors, cette première phrase, elle a dû surprendre ses auditeurs. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. La version du semeur, c'est si vous n'obéissez pas mieux à la loi que les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et là, ils ont dû se dire, ah, si ces juifs scrupuleux qui passent leur temps à essayer de voir comment on peut appliquer le plus justement la loi, si eux, leur manière d'obéir, ça ne suffit pas, alors qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Et Jésus, la conclusion, elle n'est pas plus encourageante. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Une autre direction. Cette section, je vous propose qu'elle dénonce l'enseignement des pharisiens et la manière d'être juste devant Dieu, et qu'elle en propose une autre. Et pour ça, je vais vous proposer un schéma, une petite explication, mais qui me semble très importante pour notre compréhension de la vie chrétienne. La vraie justice, c'est la direction opposée à la dynamique du péché. Le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à faire en sorte que l'homme livré à lui-même, sous l'influence du péché, il va toujours à direction opposée de Dieu. C'est comme la pesanteur. C'est la même chose. Si vous lâchez une pomme, elle va systématiquement tomber vers le bas. Et nous, lâchés, on tombe vers le péché. Le but de la loi de Dieu, c'est justement d'aller à contresens. C'est de ne pas, les interdictions, c'est de ne pas descendre. Et les recommandations, c'est pour nous aider à remonter. Mais la Bible nous montre que la loi, elle a été incapable de permettre à l'homme de remonter suffisamment. Nous lisons ça dans Romains 8:3, la loi, ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. La vraie justice, c'est de se comporter comme des enfants de Dieu et d'être des reflets du Père Céleste. Et ça, humainement, c'est effectivement impossible. Et l'erreur des pharisiens, c'est de croire que la justice, c'était d'accomplir parfaitement les prescriptions de la loi. Si j'applique parfaitement la loi, dans son sens littéral, tel qu'elle me le dit là, alors je vais être juste. Mais non, le but, c'est pas d'appliquer la loi. Le but, c'est d'être le reflet du Père Céleste. C'est la direction opposée. Et Jésus reproche même aux pharisiens qu'au lieu d'utiliser la loi dans le sens de rapprocher l'homme de Dieu, ils l'ont même utilisée pour être pire. On voit ça dans l'exemple quand il parle du chapitre sur l'adultère, ou finalement, et du divorce, où la loi sur le divorce, oui, elle existe. C'est pas un péché le divorce, c'est dans la loi de Moïse. Mais qu'ils ont utilisé le divorce pour légaliser leur désir d'adultère. Plutôt que de commettre l'adultère, ben on divorce et on prend une autre femme. Et Jésus dénonce, au lieu de nous faire pointer vers des désirs justes et bons et semblables à ceux de Dieu, la loi, elle a simplement légalisé leurs mauvais désirs. Et Jésus dénonce ça. Vous n'êtes pas dans le bon sens, vous ne lisez pas la loi dans le bon sens. Ça ne pointe pas dans ce côté-là. Ça pointe pas vers le bas, la loi, ça pointe vers le haut. Mais ce que la loi était incapable de faire, ce qui est humainement impossible aux hommes, Dieu l'a fait, en Jésus-Christ, pour que nous puissions ne plus être livrés à nous-mêmes et soumis à la pesanteur du péché, mais que nous puissions avoir cette puissance de l'Esprit qui nous permet de marcher résolument dans la bonne direction. La vraie justice, c'est de marcher résolument dans une direction opposée à celle du péché, dans une direction qui nous rapproche toujours plus de Dieu. C'est ainsi que vous vous comporterez comme des enfants du Père Céleste. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Être des reflets du Père Céleste. Et qui mieux que Jésus-Christ a été reflet du Père Céleste ? Donc être des reflets du Père Céleste, c'est équivalent à imiter Jésus-Christ. Dans notre passage, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Alors effectivement, c'était une loi de l'Ancien Testament qui s'inscrit dans tout un ensemble de règles juridiques pour régler les conflits, les différends, les préjudices, et qui avait comme but de faire en sorte que lorsqu'il y a un préjudice qui a été commis, il puisse y avoir une réparation équivalente. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. On trouve ça dans le livre des Exodes, de l'Exode. Mais Jésus, il est en train de dire, oui, vous avez appris que la justice, c'est que pour tout préjudice, vous avez droit à une réparation équivalente. Il ne dit pas « il est écrit », il dit « vous avez appris ». Ce qui remet en cause, c'est la manière d'enseigner des pharisiens. Hein. « Vous avez appris que la justice est que pour tout préjudice subi, vous avez droit à une réparation équivalente. Mais moi, je vous dis, renoncez à revendiquer vos droits et prenez la direction du pardon pour répondre au mal par le bien. » Il ne dit pas que la loi est mauvaise. Il ne dit pas que si tu fais du tort à ton prochain, tu ne dois pas aller dans le sens de la réparation. Mais il dit, si tu as subi un préjudice, ne considère pas que comme un droit de réclamer réparation. Renonce à revendiquer tes droits. Prends la direction du pardon. Choisis de répondre au mal par le bien. Et Paul en a donné une application que je trouve vraiment qui va bien dans le sens de notre texte dans Romains 7. Romains 12, versets 17 à 21. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, que vous avez le droit de réclamer votre dû, de ne pas accepter l'injustice. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et le premier point, tu peux l'afficher, que ce verset souligne la première idée. Jésus propose une direction, tout au long de ce passage, Jésus propose vraiment la direction opposée à notre tendance naturelle. La direction opposée, celle qui monte vers la perfection de Dieu, plutôt que celle qui encourage notre tendance naturelle. La paix au lieu du conflit. Notre tendance naturelle, c'est d'entrer en conflit. Et Dieu dit non, marchez vers la paix. Dans la mesure où ça dépend de vous. Quelqu'un veut te faire du tort, n'entre pas en conflit avec lui. Ne cherche pas à faire justice par toi-même, c'est ce qu'on vient de lire dans Romains. Renonce à la revendication. C'est totalement l'inverse de notre réaction naturelle, qui est fondée sur une sensibilité particulièrement aiguë en ce qui concerne les injustices envers nous. Vous avez remarqué ? Ça se voit beaucoup chez les enfants, hein ? Ils ont un sens de la justice vraiment très marqué, mais surtout quand ça les concerne. Mais nous aussi, on est comme ça. Et le premier obstacle, justement, c'est l'orgueil. Et en particulier dans cette société où ne pas se laisser marcher sur les pieds et se faire respecter sont des valeurs fortes. C'est même présenté comme étant admirable d'être capable de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ah, l'orgueil. Ne cherche pas à faire justice par toi-même. Remets-toi à Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent, nous promet la Bible. De même que Christ l'a fait. C'est ce que Pierre nous a décrit en 1 Pierre 5, 20, 23. Il dit, quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute ? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains justes du juste juge. Ne cherche pas à faire justice par toi-même. Vous savez, donc récemment, nos voisins ont fait des travaux chez eux. Et puis, ils devaient passer des tuyaux, et puis les tuyaux où ils devaient passer étaient bouchés, donc ils ont dit aux ouvriers, ben, passez chez les voisins. Puis ils ne sont pas venus nous en parler, ils sont passés chez nous. Puis nous, on n'avait pas mis de clôture, donc c'était facile. Et on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Puis quand on s'est rendu compte, première réaction, moi, ma première réaction, c'est colère. Non mais, ils marchent sur nos plates-bandes, c'était le cas de le dire, sans même nous demander l'autorisation, c'est quand même gonflé. C'est notre propriété. Ok, on n'a pas mis de grillage, mais il y avait un fil quand même. Ma propriété. Attention. C'était ma première réaction. Et j'ai même encouragé Pierre-Yves à aller voir le voisin en disant, mais attends, on ne peut pas laisser faire ça comme ça quand même. Hein, on ne va pas se laisser faire. Ce à quoi, de toute façon, le voisin a réagi avec... pas du tout désolé, au contraire. Donc c'était un peu surprenant. Mais ça m'a travaillé. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais le Seigneur m'a repris. D'abord, quand on a fait construire cette maison, il a dit, écoute Seigneur, c'est ta maison. Donc c'est ma propriété ou c'est ta propriété? Et puis ma réaction, elle était mauvaise. Et je me disais, mais même si j'ai après on voulait lui parler de la grâce et de l'amour de Dieu, qu'est-ce que dans ma réaction reflète la personne de Dieu? Est-ce que ma réaction est le reflet de la manière dont Dieu agit envers nous? Je ne crois pas. Donc après, je me suis dit, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de manifester de l'amour, de l'accueil à la personne. Ce qui ne veut pas dire, Je pense que c'est important de dire, mais vous savez, vous pouvez venir nous demander, hein. Donc on peut s'arranger, c'est pas un souci, mais on aimerait mieux quand même qu'on puisse en parler ensemble. On peut dire les choses quand même. Mais renonçons à revendiquer nos droits, de manière à pouvoir ressembler à Christ dans l'attitude qu'on va avoir face à ceux qui nous font du tort. Mais Jésus va encore plus loin que l'absence de réaction. Il ne s'agit pas simplement de renoncer. Et il y a une autre forme de résistance face à l'attaque que Jésus dénonce. Et c'est là où on arrive à notre fameux verset « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Moi, je vous propose... Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est dans ta manière de réagir, dans la manière dont tu vas réagir, l'autre doit encore pouvoir te faire du mal. C'est le signe que tu ne t'es pas endurci. Tu dois rester vulnérable. La réaction humaine la plus courante face à la souffrance provoquée par l'autre, c'est l'endurcissement. Vous savez, construire des murs, des barrières, se protéger. Parfois, on n'attaque pas, bien sûr. Ah non, parce que ce n'est pas chrétien. Mais je vais me protéger. Je vais me couper de l'autre. Je vais construire des murs sur lesquels ces prochaines flèches, elles viendront ricocher sans m'atteindre. Il y a quelques années, j'ai vraiment réalisé que j'ai aucune formation de maçon, mais j'étais très douée pour construire des murs dans ma propre vie. Et l'inconvénient de ces barrières de protection, de ces murs, c'est que si elles atténuent la souffrance que les autres peuvent nous causer, elles atténuent aussi notre capacité à les aimer. C'est un mur. C'est pas perméable d'un côté et imperméable de l'autre. Et la Bible nous enseigne que nous devons trouver en Jésus la capacité d'aimer vraiment, même si cela signifie ne pas se soustraire à la souffrance. Et j'ai réalisé, au fur et à mesure des années, qu'en même temps que Dieu m'apprend à aimer, il me rend vulnérable. Parce que si j'aime l'autre, l'autre peut me faire du mal. Parce que si je ne me ferme pas, l'autre peut encore me faire du mal. Ne nous fermons pas à l'autre. Et c'est le deuxième point, c'est l'accueil au lieu de la résistance. L'accueil. Tendre l'autre joue, c'est rester dans une position d'accueil et non pas dans une position de retrait et de protection. Ça veut dire qu'effectivement, on peut prendre une deuxième gifle, puisqu'on ne s'est pas protégé. Mais peut-être pas. Mais en tout cas, ça nous permet d'aimer. Et plus nous aimons, plus Dieu augmente notre capacité d'aimer, plus nous serons vulnérables, c'est vrai. Mais plus nous serons vulnérables, plus nous serons dépendants de lui. Plus nous aurons besoin d'être dans son amour, plus nous aurons besoin d'être dans son refuge, plus il aura besoin d'être notre appui. Parce que dans ces barrières de protection, c'est dire à Dieu, je peux me débrouiller toute seule. Je me protège, j'ai pas besoin de toi. Oui, bien sûr, tu te protèges, mais tu n'arrives plus à aimer. Romains 5, versets 5 à 8. Affirme « Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Dieu nous demande d'aimer comme Christ a aimé. Il y a quelques jours, ma fille me demandait dans la voiture, me dit « Maman, je sais que Jésus il est mort pour nous, à la croix, tout ça, mais j'arrive pas à réaliser vraiment à quel point Dieu nous aime. » Alors je lui dis « Écoute, pense à la personne à l'école que tu détestes le plus. » Ouais, ça y est, ah oui, j'ai trouvé. Très vite elle a trouvé. Et je lui dis « Imagine que, pour protéger cette personne, tu acceptes qu'on te fasse beaucoup de mal, à toi. Eh bien, tu vois, et là, elle me dit, ah non, moi, je ne serais pas capable. Attends, je ne vais quand même pas souffrir pour quelqu'un que j'aime pas. Et je dis, ben, c'est pourtant ce que Jésus a fait. C'est à ce point qu'il nous a aimés. C'est que lui, nous lui faisions du mal. Mais que lui a choisi de nous aimer jusqu'à souffrir pour nous assurer notre pardon. Aimer Christ, aimer Dieu, aimer les autres comme Christ a aimé, même ceux qui ne nous aiment pas. Il y a quelques années, j'avais reçu une lettre d'une personne, justement, alors que j'étais plutôt quelqu'un de protégé, je m'étais dit, justement, je veux apprendre à aimer. Et puis, je vais apprendre à m'ouvrir. Et puis, je vais essayer de faire tomber un peu mes barrières. Et puis, dans le cadre d'une relation, j'ai pas tendu la main, mais tendu la joue à une personne, pas pour qu'elle me donne une gifle, mais je pense plutôt pour qu'un baiser qu'une gifle. Et cette personne, en retour, m'a fait beaucoup de mal. Et en particulier par une lettre à laquelle j'ai répondu de façon très paisible et spirituelle, bien sûr, mais de manière à ce qu'il ne puisse plus me faire de mal. La relation était coupée et j'ai réalisé par la suite que mes motivations, alors qu'il me semblait que je disais des choses très justes dans la lettre, en dénonçant aussi une certaine manière de faire qui n'était pas juste chez l'autre, bien sûr, Dieu m'a repris et m'a dit « Ta lettre, elle n'est pas constructive parce que ta lettre, elle part de ta motivation de te protéger. » Tendre l'autre joue, c'est ne pas se fermer, c'est ne pas couper la relation, c'est avoir une attitude d'amour qui fait que l'autre peut encore nous faire mal. Et Jésus va même encore plus loin, puisqu'il dit au verset 40, « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Et là, l'idée, c'est refléter Christ plutôt que de défendre nos intérêts. La défense même des biens qui nous sont nécessaires, parce qu'un manteau et une tunique, c'est quand même, le manteau à la limite s'il fait chaud, mais la tunique, c'est le vêtement. Donc la défense même de ce qui peut être nécessaire et qui pourrait paraître légitime ne justifie pas de se soustraire à l'amour que nous devons manifester pour les autres. Ne cherche pas à défendre tes biens matériels au prix du conflit. C'est ça que ça veut dire. La justice de Dieu, c'est de rechercher l'amour, la paix, la bonté. Le salut de celui qui est en face de nous. La recherche de notre sécurité matérielle ne devrait jamais prendre le pas sur cela. D'autant plus qu'un peu plus loin, en Matthieu 6, 25, 32 et 33, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce qu'on pourrait objecter, oui, mais là quand même, s'il me prend même ce que j'ai pour m'habiller, pour vivre, pour manger, ça ne devrait jamais m'empêcher d'avoir une attitude d'amour, de paix, de bonté. Et il dit même, laisse-lui encore ton manteau. Alors on pourrait dire, mais il lui a pas demandé le manteau, pourquoi faut lui laisser le manteau? Je crois que ça veut dire qu'il vaut mieux être prêt à perdre un peu plus que ce qu'on risquait de perdre au départ, que d'être un contre-témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Que notre souci, notre problème à nous, c'est de l'aimer. Pas de conserver nos biens. De conserver nos biens, c'est le problème de Dieu. Notre problème à nous, c'est de l'aimer. Et même, notre attitude de générosité doit contraster avec l'attitude de celui qui cherche à nous léser. Victor Hugo l'a très bien illustré dans cette magnifique histoire des Misérables. Vous savez où Jean Valjean, le forçat qui a fait du bagne, est accueilli par un évêque, un homme de Dieu, qui l'accueille, qui l'héberge, qui le nourrit. Et Jean Valjean le remercie en se sauvant pendant la nuit en emportant l'argenterie. Et peu après, il est ramené par les gendarmes qui veulent le confronter à l'évêque pour que l'évêque puisse dire, porter plainte, et effectivement, qu'il lui a bien volé son argenterie. Et l'évêque accueille les gendarmes et Jean Valjean en disant, tu es parti sans prendre les chandeliers d'argent que je voulais te donner. Et les gendarmes disent, c'est bien ce qu'il a dit alors, il ne vous a pas volé votre argenterie. Non, non, cette argenterie, elle est à lui, mais en plus, je voulais lui donner ses chandeliers, et il prend ses chandeliers d'argent et il lui met dans la main en disant, il faut que tu partes avec ça. Non seulement il n'a pas réclamé son dû, mais en plus, il en a donné. Je trouve que c'est une belle illustration de ce que Jésus est en train de dire là. Et cette attitude de l'évêque, alors c'est un roman, mais je pense que c'est une illustration de quelque chose de juste. Cette attitude de l'évêque a eu un grand impact dans la vie de cet homme, Jean Valjean, qui par la suite est devenu un homme bien, qui a cherché à faire du bien autour de lui, aux autres. Il a été touché par la grâce et l'amour qui a été manifesté envers lui, de telle sorte que ça a eu en lui a opéré en lui un profond changement. Refléter Christ plutôt que de défendre nos intérêts. Et en dernier point, Jésus nous propose la liberté d'aimer plutôt que celle de refuser. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et pourquoi je parle de liberté? Parce que je l'ai lu dans cette version parce que je veux garder ce mille. Je pense dans le semeur, ils doivent traduire en kilomètres. C'est une distance. Parce qu'elle nous ramène au contexte de l'époque. Parce qu'on peut se mettre à la place de ceux qui étaient en train d'entendre tout ce passage, y compris ce qu'on vient de lire avant, dans un contexte d'oppression romaine. À l'époque, les Juifs, ils étaient envahis par les Romains, sous l'oppression romaine. Et l'oppression romaine, elle était particulièrement violente et dure par moments, difficile à supporter. Et en entendant Jésus, je pense que, et surtout alors avec cette phrase d'humile, ces gens, ce méchant à qui il ne faut pas résister, à qui il faut tendre l'autre joue, à qui s'il veut te prendre quelque chose, donne-lui même ton manteau. Il te demande de faire un mille, fais-en deux. Parce qu'il y avait une loi romaine qui autorisait tout soldat à demander à n'importe quel juif de porter son fardeau sur un mille. Alors la loi disait un mille, il n'avait pas le droit de faire plus. Il pouvait l'exiger sur un mille. Et les juifs n'avaient pas le droit de refuser. Et j'ai été marquée en tant qu'enfant, pour ceux qui ont lu la Bible en bande dessinée, au début de l'évangile du Nouveau Testament, on voit un grand-père qui rentre chez lui complètement épuisé et le petit garçon lui dit « Grand-père, grand-père, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et la maman explique, un soldat romain l'a obligé à porter son paquetage sur un mille. Puis après on voit le grand-père au lit, pas bien. Et donc la mère explique à ce moment-là cette loi. Et le petit garçon dit « Mais c'est injuste !» Et puis le grand-père qui renchérit « Et en plus il nous taxe !» Jusqu'à quand ça va durer? Et puis il y a cette image que Pierre va vous mettre maintenant, que je trouve très parlante. Seigneur, tu nous as promis un libérateur. Quand viendra-t-il? Un libérateur. Les Juifs attendaient un Messie qui allait les libérer, et ils étaient convaincus que ce Messie les libérerait de l'oppression romaine. Et Jésus, qu'ils espèrent être le Messie, leur dit, ne résistez pas. Ils espéraient qu'il viendrait le libérer, mais il leur propose autre chose. Ils ont dû être très décontenancés. Ça a dû être difficile à entendre ce passage. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui, eux, ça résonnait. Si un soldat te demande de faire un mille et de porter son pactage, ne fais pas seulement le mille obligatoire, fais-en un deuxième, qui n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Tu peux enlever l'image. Parce que Jésus n'était pas venu les libérer des autres, mais de eux-mêmes. On l'a vu tout à l'heure avec ce schéma de la dynamique. Jésus est venu nous libérer de l'esclavage du péché qui nous empêche d'aller dans la bonne direction, qui nous fait tout le temps tomber dans la mauvaise direction. Par l'Esprit de Dieu, nous pouvons enfin, librement, marcher résolument dans la bonne direction. Et aux yeux des autres, notre attitude à contre-courant est le signe de notre appartenance à Dieu et de cette liberté nouvelle de pouvoir continuer à aimer alors que tout nous pousse à rejeter l'autre. Notre attitude ne doit plus dépendre de celle des autres, sinon on est esclave des autres, mais de notre attachement à Christ. Pierre a cette phrase quand même particulièrement difficile à entendre des fois. 1 Pierre 2,18 dit « Serviteur, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû. » On pourrait entendre tout le respect qu'il mérite, mais même pas. « Non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur et injuste. » Soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû en tant qu'être humain, et puis son rôle de maître, et non pas parce qu'il le mérite, mais parce que Dieu le demande. Faites tout pour la gloire, comme si c'était pour le Seigneur. Et c'est pas facile. On est dans une société revendicatrice, sur nos lieux de travail. Moi, je lutte avec cette tendance revendicatrice. Oui, il y a des injustices. Oui, on nous en demande toujours plus. On nous paye pas assez. On nous donne pas les moyens. On a une déshumanisation dans les hôpitaux. Parce que je travaille à l'hôpital. Et c'est vite fait d'aller dans le sens de la revendication, de l'amertume, de la colère, de clamer à l'injustice. Chacun est préoccupé par ses intérêts. On est dans une société revendicatrice, mais on ne revendique pas en réalité pour l'autre, on revendique pour soi. Jésus ne dit pas que l'on ne doive pas se soucier de l'injustice commise contre les autres. Les écrits prophétiques dénoncent continuellement l'égocentrisme des hommes. Et Dieu se présente comme le défenseur des opprimés. Et beaucoup de chrétiens ont été à l'origine de changements très bénéfiques dans notre société. Ils ont lutté contre l'injustice. Mais parce qu'ils ne cherchaient pas leur propre intérêt. Ils ne cherchaient pas à revendiquer leurs propres droits. Ils ont eu à cœur l'injustice commise sur d'autres, le bien d'autres. Et ça change complètement notre attitude. Faire valoir nos propres droits se fait souvent au détriment des fruits de l'esprit, comme la paix, la douceur, la bonté, la générosité. C'est pourquoi Jésus nous exhorte à nous attendre à lui en ce qui concerne notre cause, à ne pas chercher à revendiquer nos droits et à nous soucier plutôt des autres. En conclusion, je crois que je la laisserai à Paul, la conclusion. Paul, Philippiens 2,5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui n'a pas cherché à conserver sa position auprès de Dieu, mais qui s'est humilié en prenant la condition humaine, en devenant serviteur, en allant jusqu'à la mort sur la croix, pour nous assurer le pardon et la réconciliation avec Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est humainement impossible, je vous rassure. Il n'y a pas que pour vous, pour moi aussi. Mais Jésus en est parfaitement conscient. Et il affirme en Jean 15,4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au pied de la vigne, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Alors restons attachés à Christ. Dépendant du Saint-Esprit, marchons résolument sur les traces de notre Seigneur en direction de l'amour, du pardon et de l'accueil de l'autre, quoi qu'il arrive. Alors au final, aurais-je dû tendre l'autre joue à mon cousin ce jour-là ? En tout cas, le Seigneur a permis que je lui tende la main plus tard, alors qu'il était en prison. Et nous avons eu une grande correspondance à ce moment-là, on s'est vu ensuite par la suite. Et dans cette correspondance, j'ai reçu plusieurs gifles concernant ma foi encore. Et à chaque fois, j'ai essayé d'y répondre avec le plus de douceur et d'amour possible. Jusqu'à ce qu'une arrive, commençant par « Petite cousine, sache que tu assures. » Il n'était pas évident de m'envoyer une lettre aussi gentille après avoir encaissé la virulence de la mienne. Trois petits points, je ne vous dis pas la suite, mais peut-être que c'était ça aussi, lui tendre l'autre joue.